Avertissement, avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Peut contenir des infos, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'information, avec vos deux informateurs. Sébastien Boucher, comment vas-tu?
Très bien, salut Simon.
Et moi-même, Simon Forgue, évidemment. Une émission, encore une fois, hey, c'était bon la semaine passée, hein, franchement?
Je pense que oui, je veux pas dire que c'était fou. Non, j'ai vraiment aimé, j'ai aimé les sujets dont on a parlé.
On commence à prendre la touche, comme on dit.
J'espère.
On a une émission, encore une fois, très chargée cette semaine. On va parler, entre autres choses, de biocarburant.
Ah oh.
Oh, ça, c'est assez spécial. Faire du carburant avec des déchets agricoles. On va recevoir dans notre deuxième quart d'heure Jean-Marc Dufresne. Il a signé un texte que vous pouvez lire dans le journal Agricom, dont vous allez trouver également le lien sur francopresse.ca. J'ai réalisé une toute petite entrevue sur quelque chose d'assez surprenant, le gaspillage alimentaire. On n'a pas idée du gaspillage qui se fait avec les boîtes à lunch.
Ah, oh, c'est sûr.
Ah oui, les boîtes à les lunchs qui vont à l'école puis qui reviennent puis qui finissent finalement dans la poubelle. Alors, on va parler de ça avec Gaël Mpoyou. Il est journaliste à l'initiative de journalisme local à la station Envol 91 au Manitoba. Il a préparé un topo et il va nous en parler. D'abord, toi, tu veux nous parler d'un sujet qui est quasi universel, les pourboires.
Oui, le sujet des pourboires a fait les manchettes, je te dirais, dans les derniers temps, derniers jours, dernières semaines, pour toutes sortes de raisons. Puis oui, on va parler des pourboires aujourd'hui, puis des nouvelles lois qui pourraient arriver, tout ça. Ça pourrait changer toute la culture des pourboires.
Dans les autres sujets également que tu vas aborder, une affaire de dents.
Oui, une thérapie pour faire repousser les dents, Simon. C'est rien de moins qui est en cours d'analyse présentement. Puis, ouais. Je devrais, si on a le temps, de parler des fantômes aujourd'hui.
Puis pas Casper, là, les fantômes dans le sens très large. On ne parlera pas de film, là, c'est nécessaire.
Oui. Okay. Puis j'avais écouté une émission que vous avez fait à peu contenir des infos à l'époque où je n'étais pas là, avec le fondateur d'Outaouais Paranormal, Marc Charette, c'était en janvier dernier.
Oui.
Puis lui, c'est un enquêteur. Alors moi, j'avais trouvé ça fascinant. Okay. Puis on va aller vraiment dans l'historique des fantômes plus que dans les enquêtes, mais ça va faire un lien quand même avec ce qu'avait dit Monsieur Charette.
OK, pas pire. Commençons avec les pourboires. Je suis curieux d'entendre parler de ça.
Ben c'est parce que j'ai lu beaucoup d'articles qui sont sortis récemment, puis je me suis dit, ben là, c'est vrai que c'est culturel un peu les pourboires. Puis là, il y a toutes sortes d'entreprises qui ont un petit terminal. Hein, pour, et le petit terminal nous demande maintenant, on veut-tu laisser 15, 18 ou 20 % Puis là, il y a des gens que ça a agacé un petit peu parce qu'on est habitué à des pourboires d'à peu près 15 % mais souvent, on se disait, c'est pour un service exceptionnel, mettons, on va laisser un pourboire. Puis il y a des places où ce que dans le monde, justement, c'est très culturel qu'on ne laisse pas de pourboire. C'est pas la norme de laisser un pourboire. Mais ici, je te dirais que ça a toujours été la norme, même qu'on se fait regarder croche, et même que c'est dans le légal hein, de laisser un pourboire, parce que souvent, les serveurs, serveuses sont payés moins cher parce que ça compte dans leur pourboire. Bon, tout ça pourrait être remis en question. Puis, c'est sûr qu'un client se sent coupable là, quand il arrive devant la petite machine, puis là, tu as le serveur ou la serveuse qui te regarde, tu sais, parce qu'il faut que tu rentres ton montant.
Ouais.
Puis des fois, c'est juste dans une place pour des commandes pour emporter, par exemple. Puis il y a aussi les fast-food, la restauration rapide qui sont en train de demander des pourboires parfois. Alors là, ça agace beaucoup de gens. Alors souvent, c'est pas vraiment de la faute des commerçants. Par contre, faut tenir compte de ça. Les nouveaux terminaux de paiement, ça impose souvent une page transactionnelle puis ils savent pas comment l'enlever.
Oh!
Souvent, ils sont pris avec ça. Puis là, ils sont obligés de le donner aux clients. Puis c'est pas la faute nécessairement du commerçant. Là.
OK, donc c'est les paramètres par défaut qui sont là.
Du terminal de la machine,
oui. Du terminal font que quand on le reçoit entre les mains, on s'aperçoit que, oh, OK, on est dans une session de tordage de bras à toute fin utile. Là. C'est un peu ça que tu es en train de nous dire.
Oui, c'est comme automatique. T'sais, c'est un affichage automatique de la machine qui demande « donnez-vous 15, 18, 20 %». Puis là, le gouvernement du Québec, le 12 septembre, il a proposé un meilleur encadrement des suggestions de pourboires, un nouveau projet de loi qui a été lancé là, par la CAQ au Québec, puis ils veulent un calcul des pourboires avant les taxes, grosso modo. Là.
OK.
On ne veut pas que le pourboire soit calculé après les taxes, on se dit on se fait déjà taxer. Faut être calculé le pourboire de 15 % sur le prix avant taxes. C'est un peu compréhensible, là, je comprends le projet de loi. Puis que les pourcentages qui sont proposés sur les terminaux soient calculés avant les taxes, c'est une chose. Mais ils disent qu'on ne devrait pas donner de pourboire au gouvernement pour le privilège de nous taxer. Alors, on comprendra un peu l'idée derrière le projet de loi. Alors, il faudrait aussi qu'ils demandent d'inclure l'option pas de pourboire dans les machines. Souvent, il y a juste des pourcentages, puis il n'y a pas l'option pas de pourboire sur certains terminaux, alors ça dérange. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que le projet ne va pas assez loin. C'est là que je veux en venir. Est-ce qu'on devrait complètement abolir les pourboires, les inclure, tous les frais de service dans le prix du repas? Ça, il y en a qui trouvent que ce serait pas mal la meilleure chose à faire. Rien n'empêche que le client pourrait laisser un petit peu plus en argent comptant, par exemple, pour souligner son appréciation ou, je te disais que culturellement, ça se fait comme en France. Souvent, les gens laissaient vraiment avec de la petite monnaie un pourboire, mais c'est très, très subjectif. C'est pas obligé du tout, c'est pas la norme, mais les gens le laissaient quand c'est un service exceptionnel. Ça a représenté longtemps, le pourboire, une performance au-dessus de la moyenne. Et puis, il y a une loi sur les normes du travail qui dit que le pourboire appartient à l'employé qui a effectué le service, donc ça devrait directement aller à l'employé, mais il y a des employeurs qui le partagent entre les employés.
Ah, je me souviens quand j'étais boss boy, à un moment donné, dans un restaurant, à une certaine époque, les caissières prenaient un petit peu de leur pourboire puis donnaient ça au boss boy pour le remercier à quelque part là, d'avoir débarrassé les tables puis d'avoir mis les couverts. Là.
Exact. Puis des fois, ça va même dans la cuisine. Hein. Il y a des fois, le personnel de la cuisine peut en recevoir un petit peu. Mais ça, ça fait pas l'affaire de tout le monde.
OK.
Ça fait beaucoup de tension des fois au sujet des pourboires dans les restaurants. Puis la décision du personnel, s'ils veulent travailler pour un employeur plutôt qu'un autre, souvent on pose la question au moment de l'entrevue. Ils demandent si le restaurant a des terminaux avec les pourcentages préétablis, par exemple.
Okay.
Puis si oui, le poste devient plus intéressant parce qu'ils sont assurés d'avoir un peu le minimum vital. Puis changer la culture de tout ça, les pourboires à la façon nord-américaine, ça prendrait du temps, en fait, autant pour les employeurs que les employés, on ne serait pas habitués. Puis je vais te parler d'un petit sondage, Narrative Research, qui dit que pour la grande majorité des Canadiens, on parle de 79%, ce serait inapproprié, par exemple, pour les chaînes de restauration rapide, de demander des pourboires aux clients. Ça, vraiment, presque 80% des Canadiens disent que ça n'a pas de bon sens de nous demander des pourboires quand on ne nous fait pas vraiment un service aux tables.
Ouais, ramasser par exemple un sac avec deux burgers puis deux frites dedans, là, tu sais, genre. Là.
Oui, ou juste nous offrir au comptoir notre commande qu'on a pris dans une restauration rapide. On demande souvent les pourboires. Puis, bon, mais il y a plusieurs chaînes de restauration qui ont commencé tranquillement à demander un pourboire sur leur machine Interact. Alors, c'est pourquoi le sujet est d'autant plus d'actualité aujourd'hui. Puis, en plus des restaurants rapides, ceux du sondage, là, les participants étaient en désaccord pour donner de l'argent au ramassage d'épicerie. 20% étaient en désaccord pour donner de l'argent au celui qui emballe ton épicerie. Pour des commandes à emporter dans les restaurants, c'est 19% aussi qui sont en désaccord. Puis dans des boutiques, un peu n'importe quelle boutique, c'est 7% qui sont en désaccord avec les pourboires. Mais la réponse est différente pour les restaurants avec le service aux tables, où là, tout le monde s'entend pour dire, en tout cas, plus de 80% disent que là, c'est approprié de demander un pourboire. Puis pour finir, la majorité des gens dans le sondage disaient que c'est correct aussi pour les salons de coiffure. On aime donner un pourboire à la coiffeuse. On trouve ça normal aussi. Pour les femmes de ménage dans les hôtels aussi. Okay. En majorité, on trouve que c'est normal. Les chauffeurs de taxi. Sinon, il y aurait les masseuses, les livreurs de médicaments à domicile ou les livreurs de pizza là, à la porte. Ça, on trouve ça normal. Mais pour tout le reste, il y a vraiment une grosse grogne. Là. Alors, on pense à faire disparaître les pourboires. On va voir ce qui se passe. Le projet de loi au Québec, ça va changer les choses un peu.
Ouais.
Mais les participants restent divisés. Des services de livraison comme Uber Eats, là, on n'est pas sûr qu'il faudrait donner des pourboires parce qu'il y a des services de livraison comme aussi DoorDash qui facturent des frais de service. Puis là, sur leur site web, on peut voir que les frais de service vont pour développement technologique, marketing, frais de paiement, mais il n'y a rien pour le livreur. Donc, on se disait à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont d'accord pour donner des pourboires à un livreur à la porte. Mais qu'est-ce que tu en penses, ça? Est-ce que tu es à l'aise avec les pourboires, toi, Simon? Moi, je suis à l'aise un peu comme ça, les restaurants.
C'est ça. Je suis à l'aise à donner du pourboire du moment où j'ai cette impression qu'on m'a rendu un service à la hauteur de mes attentes. Tu comprends ce que je veux dire? Je m'en vais m'asseoir dans un restaurant, on m'apporte les verres d'eau, on débarrasse la table, on me sert du vin, des affaires comme ça. Tu vas chez le barbier ou chez la coiffeuse, ils jasent pendant 15-20 minutes, massage de tête, là, tout fait utile quasiment.
Ouais, ouais.
Il y a comme une plus-value dans un service. Mais de commander une commande pour emporter dans un restaurant de restauration rapide, aller chercher ça par moi-même, par exemple, arriver là, ramasser le sac, puis être obligé de donner un pourboire à la caissière qui est au comptoir, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. Je pense que je suis à peu près comme monsieur, madame, tout le monde par rapport au pourboire. J'ai un peu cette impression qu'effectivement, des fois, on nous le pousse un peu de travers dans la gorge.
Et
cette histoire là, de mettre ça directement sur le terminal de paiement, la question de 15, 18 ou 20 %.
Puis 20, ça commence à être beaucoup, là.
Ça commence à être pas mal, là, 20 %. Oui. Moi, j'ai toujours appris, je sais pas si c'est de par mon âge ou quoi que ce soit du genre, mais j'ai toujours appris qu'on rajoutait, si tu voulais calculer le pourboire, enfin, c'est ce qu'on m'a appris ou c'est ce que j'ai entendu dire à l'époque, si tu rajoutais, tout fait utile, 15 % sur la facture avant les taxes, là, grosso modo. Donc, si tu avais un bill, par exemple, de 100$ au restaurant, ben tu rajoutes un 15$, tu sais, ou à peu près. Mais là, effectivement, quand c'est rendu le moment où ils rajoutent ça en surplus sur les taxes, wow, tu t'en vas manger au restaurant, tu sors avec un bill pour deux personnes de 140-150$, là, ça commence à faire cher, là.
Tout le monde serait gagnant, je pense qu'il y a des meilleurs salaires, là, pour les serveurs et tout ça, puis que les prix des pourboires soient inclus dans tout le service inclus dans le prix du repas, tu sais, dans les restaurants. Mais regarde, c'est un débat encore, il n'y a rien de fait là-dedans, puis ça pourrait prendre énormément de temps avant que ça change, mais moi, je ne serais pas con.
Ouais, c'est un débat de société à toute fin utile, hein, parce que, comme tu l'as dit, c'est rattaché à une meilleure rétribution des employés. Donc, faire sauter à toute fin utile le fameux salaire à pourboire là, dont on a entendu parler depuis tellement, mais tellement d'années. Hey, on est quasiment rendu à la fin de ce premier bloc. Je vous rappelle que si vous voulez nous écouter sur votre station de radio à chaque semaine, ça se fait évidemment si vous nous écoutez actuellement, vous savez comment faire. Mais il y a également deux façons de nous écouter en rattrapage d'une semaine à l'autre sur le site web de l'Alliance des radios communautaires du Canada, en page d'accueil, sur radio-rfa.com et sur nosradios.ca. Vous allez dans la section balado et vous allez trouver à ces deux endroits-là, l'émission peut contenir des infos en rattrapage la semaine suivante. Si vous l'avez manqué ou encore si ça vous tente de peut-être nous réécouter parce que vous nous trouvez bien bon. Ça peut
oui, c'est important, nous réécouter souvent, il faut le savoir par cœur.
Ben, pas tant, mais en tout cas, il y a peut-être des sujets qui ont piqué votre curiosité puis vous aimeriez réentendre, alors allez nous écouter en rattrapage sur Radio RFA et sur nosradios.ca d'une semaine à l'autre. Puis il y a un paquet d'applications de balado également sur lesquelles on est présent, TuneIn Radio, YouTube Music et compagnie. On s'arrête pour une pause, on va revenir dans un instant, on va parler de bioénergie et de plastique biodégradable avec Jean-Marc Dufresne, qui est l'auteur d'un texte sur les déchets agricoles qu'on transforme en bioénergie et en plastique biodégradable.
Peut contenir des infos.
On ne se le cachera pas, on le sait, hein, on est à une époque où on se préoccupe de plus en plus des questions environnementales. Il faudrait quand même être sourd et aveugle pour ne pas en avoir entendu parler et pour ne pas avoir lu sur les questions en la matière. Et c'est fascinant de découvrir toutes les innovations technologiques qui nous arrivent dans différents domaines. Et c'est vrai, entre autres, dans le domaine des carburants.
Mais oui, puis on savait déjà que c'était possible de produire de l'éthanol avec du maïs, hein, en tout cas.
Ben entre autres choses. Mais là, celui dont on va parler, ou enfin, le texte dont on va parler aujourd'hui, il va beaucoup plus loin que ça. Jean-Marc Dufresne a rédigé un texte qu'on vous invite à lire. Vous allez le trouver dans le journal Agricom, ou enfin, sur le site web. Il est aussi sur francopresse.ca. Le titre, c'est, écoutez ça, « Faire du pétrole avec des résidus agricoles ». On est rendu là. Alors, on va en parler avec lui. C'est une entreprise ontarienne qui travaille au développement de technologies, oui, pour convertir les résidus agricoles en bioénergie et en plastique biodégradable. Il est avec nous en entrevue aujourd'hui. Jean-Marc Dufresne, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Jean-Marc, qui a eu d'abord cette idée absolument incroyable là, de créer de la bioénergie et des plastiques biodégradables avec quelque chose qui, a priori, on mettrait aux ordures. Parle-nous un peu des initiateurs, si on veut, de ce projet-là dont il est question dans l'article.
Bien, je peux vous parler de Bioindustrial Innovation Canada, qui a été le sujet du reportage, mais en toute honnêteté, ce n'est pas eux qui ont eu l'idée initiale. C'est un concept, c'est un principe qui existe déjà ailleurs dans le monde, et même Bioindustrial Innovation Canada met en application des concepts avec lesquels des chercheurs jouent déjà depuis longtemps. Alors, eux, qui sont-ils? Ben, c'est un accélérateur d'entreprises à but non lucratif à la grandeur du Canada, mais ils sont basés à Sarnia, en Ontario. Leur objectif, c'est de faire du Canada un leader mondialement reconnu en matière de chimie durable. Alors, quand on parle de chimie durable, c'est de la bioéconomie industrielle qui convertit des ressources renouvelables, comme par exemple des sous-produits, résidus agricoles et forestiers, et on va convertir ça en bioénergie, tu le mentionnais, biocarburant, produits biochimiques, biomatériaux à valeur ajoutée. On veut que ce soit un processus durable, c'est-à-dire qui utilise efficacement les ressources limitées de la planète, par exemple l'eau, l'énergie. Et ça, on va faire ça avec des technologies innovantes. Et on veut évidemment aussi promouvoir l'économie circulaire qui réutilise et récupère les ressources de la planète.
Pourquoi on va faire, à partir de déchets agricoles, là, par exemple, de la bioénergie, des plastiques biodégradables, quelles sont les applications de ça? À quoi ça va servir?
Ben, en fait, spontanément, si tu me dis pourquoi on fait ça, je dirais pourquoi pas.
Parce ouais, pourquoi pas.
Au fond, on parle à la base, retenons-le, on parle de déchets agricoles. Donc, des parties dont on ne se sert pas de façon active dans l'alimentation. Et ça peut être, par exemple, pensez à du maïs. Pensez dans des champs de maïs, mais c'est pas le plat au complet qu'on mange. La grande tige et tout ça, on mange pas ça. Et ce qui arrive avec ça, ben, une fois que c'est recueilli et que le maïs est retiré, ben, on reste prêt avec une grosse pile qui, en se décomposant, produit du CO2. Et il y a des matières là-dedans, des fois, qui sont dures à composter. Je sais pas si vous avez remarqué, mais prenez juste la plure de maïs, la plure d'un épli de blé d'Inde. C'est quasiment anti-balle, cette affaire-là. Vous mettez ça dans le compost, deux ans après, ça va être encore là, de terre, puis allô! Alors, on essaie de voir de quelle façon on est capable de prendre ces matériaux-là, qui sont essentiellement des déchets, puis dire, OK, est-ce qu'on peut les traiter, puis leur donner une deuxième vie, et aller chercher une utilisation qui va répondre à un besoin, parce qu'on a un besoin croissant de différents types d'énergie, et on veut être de moins en moins dépendant du pétrole. Et le pétrole, oui, ça fait fonctionner nos véhicules, mais c'est à la base de nos plastiques. Alors, si on arrivait à trouver une utilisation qui permet de substituer au pétrole, eh bien, on aurait une formule gagnante et c'est là-dessus qu'on travaille.
On parle de déchets agricoles ou de résidus agricoles. Tu as évoqué tout à l'heure l'idée là, du maïs ou enfin les résidus du maïs, mais techniquement, là, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme produit? La palette est quand même assez large, j'imagine.
Oui, en ce moment, on va faire du travail, des études de recherche sur les pailles de blé, d'avoine, l'orge, des tiges de maïs dont je vous parlais tantôt, des fractions de légumineuses qui sont non alimentaires. Non, les légumineuses, votre épouse vous a servi ou vous aimez bouffer de la luzerne, mais vous savez que c'est un plant, mais il y a une partie de ça qui est non comestible. Quand on fait pousser des champignons, le substrat, ce sur quoi le champignon pousse, souvent c'est des écorces de bois, des choses comme ça, mais c'est non comestible. Le riz sauvage. En fait, je parlais avec le gérant de projet du BIC, Michael Faba, puis il disait, il n'y a pas vraiment de produits ou de résidus particuliers qu'on va exclure. C'est seulement une question de savoir s'il est inclus dans un cadre d'une activité, de projet particulier, ce sur quoi on travaille. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des opportunités d'inclure des résidus qui ne font pas déjà partie d'une étude. Si on se rend compte, par exemple, qu'il y a des débouchés extraordinaires pour les trognons de pommes, ben on va faire quelque chose avec ça.
Mais il y a des réticences hein, quand même. Vous avez parlé à des agriculteurs qui adhèrent pas tout à fait à l'idée ou pas encore ou qui ont des réserves. Il y en a une qui voyait pas l'intérêt de se défaire de ces résidus agricoles carrément.
C'est-à-dire qu'il y a personne, et ça c'est important que le message passe bien, je pense qu'il y a personne qui est contre la vertu. Il y a personne qui est contre l'idée du progrès et de donner une valorisation autre à leurs produits. Mais dans le cas de cette agricultrice de l'Est-Ontarien à qui j'ai parlé, elle m'a dit, écoute, personnellement, le type de culture que je fais produit des résidus et des déchets dont je me sers pour enrichir ma terre d'une année à l'autre. Donc, son type de culture à elle fait qu'elle se dit, moi, je ne serais pas la première à lever la main pour dire, venez chercher mes déchets, parce que dans le fond, mes déchets, ils me servent. Et ça peut arriver dans certains types de culture. Mais il y a d'autres cultures, comme on l'a mentionné tantôt, où effectivement, ça devient un problème de gérer ces déchets-là et où on va applaudir la possibilité de les traiter. Il faut encore que ce soit économiquement viable, parce que si vous avez une entreprise qui produit des déchets à Cornwall et que vous devez les envoyer par camion à Sarnia, ben peut-être que ce que ça va coûter écologiquement de le transporter, ça vaut pas la peine. Alors, il reste encore beaucoup de choses à peaufiner là, dans le processus.
Donc, en clair, quand on parle de résidus agricoles, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement quelque chose qui pourrit dans les champs. T'sais. On en fait la démonstration dans cet article-là. Il y en a qui se servent quand même de ces résidus-là agricoles et qui, a priori, ne voient pas nécessairement l'importance de transformer ça en bioplastique ou en bioénergie. Là. C'est ce qu'il faut comprendre.
C'est-à-dire que c'est ça. Il faut comprendre par déchets agricoles quelque chose qui n'a pas d'utilisation propre. À prime abord, à première vue, là, l'agriculteur n'en a pas usage. Quand il en a usage, ça n'est plus un déchet agricole. Dans le fond, c'est un résidu dont il se sert pour autre chose. Mais quand c'est un déchet agricole, là, c'est vraiment parce que, écoute, je peux pas vraiment rien faire avec ça. J'en ai une trop grande quantité. Ça prend trop de temps à se décomposer. C'est pas vraiment utile pour mes cultures. Et c'est avec ça qu'on essaie maintenant de donner une deuxième vie, une valeur ajoutée.
Mais Jean-Marc, tu l'as dit tantôt d'entrée de jeu, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, là, ce qu'on fait au Canada. Je dirais même qu'on est presque à la traîne. Là. Il y a des initiatives comme celle-là qui existent depuis, ma foi, très, très longtemps du côté de l'Europe, par exemple, si je comprends.
Oui, et puis ça, c'est quand même surprenant de savoir à quel point on est en avance sur le Canada en Europe. Je pense entre autres à une entreprise qui s'appelle Plastic Free, qui est une start-up suédoise. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont extraire des matériaux fibreux des déchets agricoles, ils vont créer des plastiques écologiques et entièrement biodégradables. Fruit Leather à Rotterdam fabrique des sacs à main et des chaussures à base de fruits rejetés par les grandes chaînes d'alimentation. Et en Finlande, il y a une usine de biogaz qui est alimentée par du fumier et des déchets agricoles. Donc, je ne sais pas si ça vous fait une image mentale, mais moi, ça me ramène un petit peu à Back to the Future, retour vers le futur, où on avait modifié la voiture du doc là, de façon à ce qu'elle puisse prendre des déchets pour alimenter la DeLorean. On est un peu là.
Hey, mais moi, je voudrais savoir les prochaines étapes. Est-ce que ça va être commercialisé, des technologies comme ça? Ou quand est-ce qu'on pourrait penser à l'arrivée de biocarburants et de plastique biodégradable ici, au Canada?
Ben, il y a des choses qui sont déjà en cours. Dans le cas des GRAP dont je vous parlais tantôt, là, de Bioindustrial Innovation Canada, il faut savoir qu'ils sont présents un petit peu partout à différents stades de développement. Ils sont à Terre-Neuve, ils sont en Ontario, ils sont en Alberta, et chaque usine ou chaque projet a un mandat différent. Maintenant, là où on est le plus avancé, par exemple dans le cas de l'usine de Sarnia en Ontario, ça pourrait être, des produits pourraient être commercialisés un an ou deux après la fin des travaux de GRAP de recherche, qui viennent d'avoir des subventions de 6 quelques millions pour leur développement. Donc, on est encore dans l'étape de recherche. Et quand les recherches vont être terminées puis qu'on va arriver avec des résultats concluants, là, ça va prendre encore un an ou deux pour développer ça. Et il y en a que ça va être un peu plus long parce que il y a des complexités liées à la mise à l'échelle, au développement de marché, conception de techniques avancées. Comment prendre ça, implanter ça, à quel endroit, proche de quel marché, comment on va les transporter, comment tout ça, trouver qu'est-ce qu'on peut faire avec les résidus et les déchets, c'est une chose, mais comment après ça l'implanter dans un milieu proche de ceux qui vont bénéficier de ces services-là, ça c'est une autre logistique qui demande aussi. Alors écoutez, on peut parler d'un horizon de 2 à 10 ans, j'imagine, là, dans certains cas.
Ah,
faire quand même, du pétrole. Bientôt. Oui, ben c'est quasiment demain la veille, hein, dans une vie d'homme, là, une dizaine d'années, quand on sait que dans un horizon comme 2035 ou à peu près, on pourrait avoir des véhicules électriques et puis que tout le monde est là et en train de paniquer. Ah, il va falloir que je change mon auto. Ben 10 ans, c'est comme presque demain la veille, là. C'est ce qu'il faut comprendre.
Ben, en fait, c'était un petit peu la question que je posais aux gens du BIC en leur disant pourquoi s'en aller dans des substituts de pétrole au moment où les gouvernements nous disent qu'à partir de 2035, on va seulement permettre la vente de véhicules électriques neufs. Et on me dit, ben c'est parce qu'il n'y a pas que... D'abord, il n'y aura pas que... Il va quand même avoir encore une flotte de véhicules usagés qui va fonctionner à l'essence, oui, évidemment, mais il n'y a pas que l'essence qu'on tire du pétrole. On tire des produits de plastique aussi et pour faire des intérieurs de voitures, pour faire toutes sortes de marchandises. Alors, il y a définitivement un marché et des débouchés importants pour ce genre de produits faits à partir de résidus agricoles.
Et tant mieux si on peut le faire de façon plus environnementalement respectueuse, si on peut le dire ainsi, hein. Alors, merci Jean-Marc Dufresne. Son texte a pour titre « Faire du pétrole avec des résidus agricoles ». Vous pourrez lire ça dans le journal Agricom et le site web, journal qui se consacre essentiellement aux questions environnementales et l'agriculture et les choses comme celles-là. Et vous allez le trouver aussi sur francopresse.ca. Tapez juste « résidus agricoles » dans la barre de recherche. Moi, j'ai été vraiment très, très surpris de ça, franchement.
Ben, merci à vous, messieurs. Merci de l'invitation, puis de propager cette information-là. Vous voyez, on est dans les médias et vous comme moi, au moment où on est tombé sur cette information-là, on n'était pas vraiment au courant à quel point c'était avancé. Et ça nous permet de rendre votre auditoire et les Canadiens en général plus au courant du fait que non seulement il y a des recherches qui se font là-dedans, mais qu'en plus, le Canada se positionne très bien dans cette recherche-là et qu'on est un petit peu, on était un petit peu à la traîne, mais là, on s'arrange pour essayer de devenir des leaders et des gens de premier ordre, de premier rang dans cette recherche.
Bien, tant mieux, quand on est embarqué sur le bicycle, on est aussi bien de pédaler pour avancer, hein?
Comme tu dis.
Mais merci, merci Jean-Marc Dufresne. Salut.
Avertissement.
Cette émission
peut contenir des infos.
Dans un tout petit instant, on va rencontrer Gaël Mpoyou. Enfin, j'ai discuté avec lui à propos de gaspillage alimentaire dans les boîtes à lunch. Mais d'abord, ben pour manger, ça prend des dents.
Oui.
Puis Sébastien va nous parler d'une thérapie pour faire pousser les dents. Qu'est-ce que c'est ça?
Ben oui. Attends, je savais que ça allait t'intriguer vraiment, mais c'est une étude qui est présentement en cours. Il y a plein de choses qui sont en train d'être travaillées là-dessus. Et ça fait plus de 20 ans, en fait, qu'il y a une équipe de M. Katsu Takahashi. Hein, qui travaille sur un sujet assez complexe de la régénération dentaire, faire pousser des nouvelles dents. Puis c'est un peu le rêve ultime des chirurgiens dentistes là, de réussir à avoir à un moment donné, oh, on arrête de les réparer, on les fait pousser.
Ben oui.
Ben c'est ça, c'est comme un vrai graal en fait pour les chercheurs. C'est très très complexe, il y a plus de 900 maladies génétiques qui s'expriment au niveau de la bouche, alors assez complexe de trouver des solutions. Puis, c'est le cas d'une maladie, l'agénésie dentaire, c'est l'absence d'une dent, ça touche 1% de la population mondiale. Il y a aussi une autre maladie, l'hypodontie, une absence de 1 à 5 dents ou de l'oligodontie qui est une absence de plus de 6 dents. Bon. Puis, l'objectif d'un programme d'éducation thérapeutique d'un patient, là, ils ont fait ça au Centre de référence des maladies rares à Strasbourg. Et c'est vraiment intéressant parce que on veut aider les parents et leurs enfants qui sont atteints de ça, la génésie dentaire et d'autres maladies comme ça rares, à comprendre leur maladie puis la chronologie du traitement pour mieux gérer au quotidien. Puis le programme consiste à organiser des ateliers qui sont animés par des dentistes, des médecins, des généticiens. Il y a une orthodontiste là-dedans, psychologue, diététicienne, tout le monde y contribue. Une approche personnalisée donc auprès de 5 enfants qui sont accompagnés de leurs parents. Et là, les programmes de soins, prothèses, implants sont souvent complexes, ça coûte très cher, c'est mal remboursé, tout ça. Alors, se passer de ces soins, ça serait une avancée majeure, hein, appréciée de tout ça, on est bien d'accord. Premier objectif visé par les chercheurs japonais, dont je t'ai mentionné les noms tout à l'heure, ben,
pas besoin
un
de répéter.
Nom en particulier. Non, c'est ça. Mais c'est en 2021, ils ont eu tout un espoir d'une alternative biologique aux implants. C'est un article qui est paru dans la revue Nature. On a identifié un gène dont sa fonction, c'est de contrôler le nombre de dents. Ça inhibe le développement des germes dentaires. Et en poursuivant leurs travaux, ils ont développé un anticorps qui est capable de bloquer ce gène-là. Alors attention, résultat, dans les premiers essais qui ont été faits chez des souris, parce qu'on n'a pas encore fait chez les humains, ouais, je vais t'en parler, c'est en cours, mais on l'a fait sur des souris puis sur un furet. Puis ils ont constaté l'apparition de nouvelles dents dans bouche des rongeurs. Un résultat qui a autorisé donc le lancement d'un essai clinique. Ça va débuter chez une trentaine d'adultes volontaires qui sont entre 30 et 64 ans, à qui il manque une molaire. Et puis là, c'est un choix pour pas déséquilibrer trop la dentition qui est préexistante avec l'arrivée potentielle de cette nouvelle dent, qu'on peut appeler une néodent. On l'espère, en tout cas, à la suite d'une injection intraveineuse du fameux anticorps qu'on a trouvé. Puis les personnes sont ensuite suivies pendant un an pour observer l'évolution de la repousse. Puis dans un premier temps, c'est surtout l'absence de toxicité qu'on va tester. On va être sûr que c'est pas trop toxique, cette histoire-là. Puis si les résultats sont concluants, eh bien c'est la compagnie Toregem Biopharma qui envisage de poursuivre les tests sur des enfants qui sont atteints donc d'agénésie dentaire. Puis on veut commercialiser le médicament d'ici 2030. Et puis les enjeux des recherches sont importants parce qu'à terme, on pourrait dire adieu aux implants. Et ça ne concernerait pas seulement ceux qui sont atteints là, d'anagésie, mais aussi à tous ceux à qui il manque une ou plusieurs dents en raison de traumatisme, de caries, de maladies. On pourrait peut-être faire repousser ça. Et chez ce qu'on, nous, là, notre espèce, les Homo sapiens, on sait que les dents poussent deux fois. Les humains possèdent normalement 32 dents. Ça apparaît d'abord 20 dents temporaires, les dents de lait qu'on appelle, puis à l'âge de 3 ans. Ensuite, ça tombe, on a les belles dents permanentes. Ça sort entre 5 et 12 ans. Mais contrairement aux alligators, aux poissons, aux reptiles, eux, ils ont des mécanismes de repousse qui peuvent se renouveler plusieurs fois dans l'existence. Alors, nous, ça pousse juste deux fois. Puis là, on est en train d'essayer de voir avec ça, est-ce qu'on pourrait faire repousser une dent qui a déjà poussé deux fois? Puis ça semble être concluant avec les souris. Fait que ça pourrait arriver. Puis là, ils font des tests qui vont se rendre jusqu'à 2029.
Okay.
Je vais regarder, là. Très grande complexité, comme je te disais, pour la repousse dentaire. Mais depuis 22, il y a un essai clinique mondial qui est en cours dans 6 pays. Alors là, on injecte la protéine manquante directement dans le liquide amniotique. 3 reprises entre la 26e et la 32e semaine de grossesse. Donc, on veut aller pour guérir des enfants qui seraient atteints de cette maladie qui empêche une dent de pousser. Puis là, à ce stade-là, les bébés avaient régulièrement du liquide amniotique, peuvent être traités. Maladie génétique rare, la dysplasie ectothermique hypohydrotique lié à un gène. En tout cas, c'est trop compliqué ça. Mais il y a 9 femmes qui ont déjà reçu le protocole, 20 d'autres qui seront incluses d'ici la fin de l'essai qui va aller jusqu'en 2029.
Fait que c'est pas une vue de l'esprit ou c'est pas un fantasme. On est déjà en train d'essayer ce genre d'affaires-là. Et tu nous as dit tantôt que dans un horizon de quelques années, 2030 ou à peu près, on pourrait s'en aller chez le dentiste et au lieu de se dealer une prothèse, on va se dealer un traitement pour se faire pousser les dents. Pas à côté dans un pot ou dans un laboratoire, directement dans la bouche. C'est ça qu'on faut comprendre, là.
Bien, on se dirige vers ça. C'est un espoir, en tout cas, pour les familles. Mais c'est surtout, comme je te disais, pour les bébés qui seraient atteints d'une maladie qui leur fait manquer une dent. Puis là, on va tenter de régler le problème parce qu'on a vu qu'avec les souris, ben ça marchait puis les dents finissaient par pousser. Même si on pouvait contrer les effets de cette maladie-là.
Ben oui, mais d'un problème à l'autre, si on réussit déjà à régler ce problème-là, allez donc savoir si un jour ou l'autre, on ne réglera pas le problème, comme tu disais, d'autres personnes qui ont des problèmes, justement, de dents manquantes pour une raison ou une autre, un accident, une chute ou des affaires comme ça. Là. Donc, il y a quand même de l'espoir. Moi, je trouve ça très intéressant.
Ben, c'est que tout est possible. Hein? On regarde ça, puis ça nous fait que c'est mystérieux, les dents.
Ah oui, mais c'est rendu loin, là, les miracles de la médecine. Hein? Là, une fois qu'on a des dents dans la bouche, qu'on est capable de manger un lunch, il faut parler de gaspillage alimentaire. L'importance de ne pas gaspiller la nourriture et de manger son lunch qu'on a dans sa boîte à lunch. On va parler de ça dans un instant. Je me suis entretenu avec Gaëlle Mpoyo. Gaëlle, qui est journaliste à l'initiative de journalisme local pour la station Envol 91 à Winnipeg, au Manitoba. Il a préparé un reportage dont il va nous parler sur le gaspillage alimentaire et les conséquences insoupçonnées que ça a sur un paquet de facteurs, notre portefeuille, l'environnement et tout ça. On écoute ça, puis on vous revient après avec Peut contenir des infos.
Peut contenir des infos.
Il y a une étude qui a été menée auprès de plusieurs parents à travers le pays et qui a mis à jour l'ampleur du gaspillage alimentaire dans les boîtes à lunch des élèves au Canada. C'est une préoccupation pour plusieurs parents, évidemment. C'est une préoccupation que je vous dirais aussi environnementale. Et Gaëlle Mpoyo, qui est journaliste pour l'initiative de journalisme local à la radio Envol 91 au Manitoba, s'est penché sur la question. Il a réalisé un reportage sur le sujet et on en discute avec lui aujourd'hui. Elle peut contenir des infos. Bonjour Gaëlle.
Bonjour Simon, comment tu vas?
Ça va bien, merci. Gaëlle, qui a réalisé l'étude sur laquelle tu t'es penché et pourquoi avoir réalisé une étude comme celle-là?
Bien, l'étude a été réalisée par Too Good To Go, une application dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Alors Simon, cette étude a été conduite pour mettre en lumière le problème préoccupant du gaspillage des nourritures dans le boîte à lunch et les collations des élèves canadiens. Alors, l'objectif est de sensibiliser les parents, les éducateurs et les décideurs aux habitudes alimentaires des enfants et à la quantité importante des nourritures qui est jetée afin de trouver des solutions pour réduire le gaspillage et encourager des pratiques alimentaires plus durables.
Gaëlle, dis-moi, comment Too Good To Go s'y est-elle pris pour recueillir les données? Qui et comment les personnes ont été sondées pour cette grande étude?
C'est une très bonne question, Simon. Alors, pour recueillir les données, Too Good To Go a réalisé un sondage auprès de 2000 parents à travers le Canada. Alors, les participants au sondage ont été interrogés sur leurs habitudes de préparation des lunchs et de collations pour leurs enfants, ainsi que sur les quantités de nourriture qui reviennent à la maison non consommées. Alors, cette approche a permis de recueillir des informations directes des parents sur la gestion des repas scolaires et d'obtenir des statistiques représentatives de comportements alimentaires des familles canadiennes.
Et c'est quand même préoccupant, on le disait tout à l'heure, parce que ça a un impact sur le budget familial, ça a un impact environnemental. Qu'est-ce qu'on apprend grosso modo là, dans cette étude de Too Good To Go?
Pour cette question, Simon, cette situation est préoccupante, car elle relève d'une quantité significative de nourriture gaspillée. Alors, ce qui a des implications environnementales et économiques. Alors, selon l'étude, 83% des parents affirment que les collations qu'ils préparent pour leurs enfants retournent à la maison non consommées. Et parmi eux, 50% admettent jeter cette nourriture. Alors cela indique non seulement un gaspillage alimentaire important, mais aussi un potentiel gaspillage de ressources et une opportunité manquée d'éduquer les enfants sur des pratiques alimentaires durables. Alors, Simon, l'étude souligne la nécessité de revoir les pratiques de préparation de repas et d'encourager des solutions pour réduire les gaspillages.
Oui, justement, en conclusion, Gaël, le temps file. Tu as parlé à un porte-parole de Too Good To Go là, dans ton reportage qu'on va inviter les gens tout à l'heure à aller consulter et à aller écouter. Et lui, il disait qu'on peut poser des gestes pour lutter contre le gaspillage alimentaire.
Oui, Simon, lors de notre entretien avec un porte-parole de Too Good To Go, il a souligné plusieurs actions que les parents peuvent entreprendre pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Il a recommandé de planifier soigneusement leurs repas et les collations en fonction de besoins réels des enfants, d'impliquer les enfants dans la préparation de leurs repas pour qu'ils soient plus enclins à les consommer et de réutiliser le reste de manière créative pour éviter qu'ils ne finissent à la poubelle. Il est également important de sensibiliser les enfants aux enjeux du gaspillage alimentaire pour leur inculquer de bonnes habitudes de leur jeune âge. Alors ces gestes, bien que simples, peuvent avoir un impact significatif sur la réduction du gaspillage alimentaire au quotidien.
Je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Déjà, la première, déjà, si je reviens sur les 50% des parents qui observent en effet qu'il y a une partie, il y a des restants qui arrivent et qui jettent ces restants, indique qu'ils jettent ces restants principalement parce que les aliments qui reviennent sont des aliments périssables. Donc ça, c'est évidemment, ça vient questionner aussi ce qu'on introduit dans nos boîtes à lunch, éventuellement privilégier quand c'est possible, des produits non périssables qui ont aussi un bon élément nutritif. Je pense notamment à des graines de tournesol, à des compotes, à des fruits secs, à des barres tendres. Ce type de produit-là a le mérite en bouline de pouvoir être réutilisé. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui est important. Les choix ou les préférences alimentaires des enfants, c'est évidemment quelque chose qui se retrouve en effet dans les défis, puisque les parents manitobains explique que c'est très très difficile pour eux de trouver un équilibre entre l'aspect nutritif et gustatif des aliments, donc les préférences de leurs enfants, et que souvent le fait que les enfants soient difficiles dans leur choix alimentaire va créer pas mal de défis pour préparer les boîtes à lunch.
Ouais, la rentrée scolaire n'est vieille que d'à peine quelques semaines. Hein. À ce temps-ci de l'année, on sait que c'est une préoccupation pour beaucoup de parents, faire des lunchs pour l'école. On vous invite à aller lire et écouter ce reportage que Gaël Mpoyou, journaliste de la radio Envol 91, a réalisé. C'est entre autres sur le site fréquenceinfo.ca, le site de l'initiative de journalisme local. Vous tapez tout simplement « boîte à lunch » et vous allez avoir tous les détails sur ce reportage-là. Merci beaucoup, Gaël Mpoyou.
Ça a été un grand plaisir de discuter avec toi, Simon.
Merci.
Peut contenir des infos.
C'est l'émission Peut contenir des infos qui va se poursuivre pour encore à peu près une quinzaine de minutes, plus ou moins. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez, oui, nous écouter comme vous le faites sans doute plusieurs d'entre vous à la radio directement, mais que vous pouvez également nous retrouver en rattrapage sur Internet la semaine qui suit la diffusion radiophonique. C'est-à-dire que vous naviguez sur Internet jusque à notre site Internet de l'Alliance des radios communautaires du Canada, radiorfa.com, en page d'accueil, ou encore, vous naviguez aussi sur nosradios.ca, vous allez trouver là le contenu en rattrapage de Peut contenir des infos dans la section balado. N'hésitez pas à aller nous y retrouver d'une semaine à l'autre.
Pour rester en contact avec Peut contenir des infos, abonnez-vous à notre page Facebook. Si vous avez des idées, des suggestions ou des questions à nous soumettre, écrivez-nous par courriel pcdi@radiorfa.com.
Hey, ça a l'air de rien comme ça, mais on est déjà rendu à notre dernier quart d'heure de l'émission Peut contenir des infos. J'espère que vous l'avez trouvé très bon jusqu'à présent. J'espère que vous l'avez à tout le moins trouvé informatif. Sébastien, on s'attaque à un sujet qui va meubler tout le bloc.
Ben, je pense que c'est un sujet où on aurait pu se poser de nombreuses questions puis aller loin dans les recherches. Crois-tu aux fantômes?
Si je crois aux fantômes, je sais pas. Honnêtement, je suis un peu dubitatif devant ça. Des fois, je me dis, ouais, c'est un peu intriguant. D'autres fois, le rationnel essaye d'embarquer. Je t'avoue, à brûle pour point comme ça, je ne sais pas trop quoi penser des fantômes. Parle-nous des fantômes.
Je veux dire, je suis un peu comme toi, moi aussi, j'ai bien de la misère à croire aux fantômes parce que j'ai pas eu de preuves personnelles, moi, tu sais, que des fantômes existent, mais il y a tellement de monde qui croient qu'ils en ont vu, qui disent qu'ils en ont vu, c'est tellement un phénomène répandu. Puis c'est ça, j'en parlais en début d'émission, tu avais fait en janvier une entrevue avec le fondateur d'Outaouais Paranormal, M. Marc Charette. Lui, c'est un enquêteur, puis il disait, hein, il enquête pas pour n'importe quoi, ça prend vraiment des... C'est pas quelqu'un qui a... Ça peut être des hallucinations des fois, ça peut être toutes sortes de choses. Là, puis
c'est ça.
Ça prend des éléments solides, tangibles pour faire enquête. Mais regarde, la définition d'un fantôme, là, c'est une apparition, une vision ou une illusion qui est interprétée comme une manifestation surnaturelle d'une personne décédée, en gros. Okay. Ça devrait être ça, la définition, comme un peu dictionnaire.
Là. Et c'est pas nécessairement juste de la vision, là. Ça peut être de l'audition, hein, t'entends des voix, des choses comme ça. C'est un peu ça qu'il faut comprendre.
Mais là, dans ce temps-là, c'est plus esprit. Le fantôme, okay. Faudrait comme le voir, là, On peut parler d'esprit qui nous parle ou tout ça, mais les fantômes, c'est aussi appelé des fois des revenants, des spectres ou plus rarement des ombres. Mais il y a des différences. Comme par exemple, un revenant, ça serait l'apparition d'un mort qu'on connaît, qui arrive pareil comme il était, dans une apparence identique à celle qu'il avait de son vivant, puis qui se comporte comme un vivant. Donc ça serait un revenant. Tandis qu'un fantôme, c'est souvent plus une image floue, lumineuse, brumeuse ou inconsistante qui paraît flotter, qu'on voit. Mais bon, on qualifie souvent de fantôme le phénomène qu'on connaît sous le nom de poltergeist, hein, comme le film
oui,
poltergeist.
Comme le film.
Ça. Ben oui, oui, ça, c'est l'esprit frappeur. Ça se manifeste par des bruits, comme tu dis, des déplacements inexplicables d'objets. Ben, c'est considéré, c'est un peu un poltergeist, ça, comme sorte de fantôme.
Okay.
Pas tout à fait fantôme, mais bon, c'est généralement lié, ça, à la présence d'un enfant qui est perturbé, mais ça n'implique pas de lien avec un défunt, comme le traditionnel fantôme. Ça, c'est souvent, l'enfant est perturbé, ça fait venir une force maléfique, mais ça n'a pas de lien avec son mononcle qui est décédé. Là.
OK.
Puis, il y a différents sondages qui ont été effectués dans le monde, et c'est ça que je trouve intéressant. La croyance à l'existence des fantômes, c'est vraiment, la plupart du monde y croit, je te dirais, mais ça varie beaucoup selon les pays. On regarde en France, c'est des sondages que je suis allé récolter, mais qui viennent d'années différentes. Comme là, en France, c'est un sondage de l'an 2000. Bon, 13% des gens croyaient aux fantômes. Au Québec, en l'an 2001, 21% pour okay. La province du Québec. Les Chinois de Hong Kong, 50%.
Ah oui, hein?
Croient aux fantômes. Ah, okay. C'est beaucoup. Aux États-Unis, d'après toi?
Ben, les Américains, comme on les connaît, ça doit être dans l'ordre d'à peu près ça, là, peut-être une cinquantaine de pourcents. D'après moi, ils doivent pas
être... T'as raison.
Ah oui, hein?
51%, t'es direct okay. dedans. Puis ça, c'est un sondage de 2009. Puis 18% aux États-Unis disent qu'ils en ont déjà rencontré, qu'ils en ont vu des fantômes.
Ah oui,
puis
hein?
52% croient aux fantômes au Royaume-Uni. Alors, pour donner à peu près une idée, puis dans certains pays comme la Thaïlande, la croyance aux fantômes, c'est général. C'est généralisé. Presque tout le monde en Thaïlande croit aux fantômes. Et ça pourrait se savourer à une réponse de Madame du Défunt. Elle, là, c'est une madame qui était née en 1696 en Bourgogne. Elle est morte en 1780 à Paris. C'était une grande écrivaine française. Puis elle a dit une phrase célèbre, enfin une réponse célèbre à une question. On lui avait demandé, est-ce qu'elle croit aux fantômes? Elle avait dit, non, mais j'en ai peur. On y croit pas, mais on y croit. Non, mais ça me fait peur pareil. Ça veut dire que tu y crois un petit peu. Hein? Donc, c'est un peu la réponse que les gens donnent en Thaïlande pour refléter. Là. Mais elle, c'est une écrivaine française. Mais dans la plupart des traditions, les religions, les philosophies, on considère que l'être humain est composé d'un corps mortel et d'une âme immortelle. Ou, bon, l'esprit, une âme. Tu sais, même en Égypte antique, on distinguait le corps qu'on appelait Djet et l'âme qu'on appelait Ba en Égypte. Donc, tu sais, on a toujours distingué un peu le corps et l'âme.
Ben même chez nous, en Occident, là, je veux dire, quand on a un proche qui est en train de mourir ou de partir, tu sais, souvent, ou enfin souvent, ça va arriver de temps en temps qu'on va dire, on va tenir des langages comme « Ah, tu m'attendras de l'autre côté » ou « on va se rejoindre, oui. mon amour », tu sais, des choses comme celle-là. Donc, ça fait la démonstration que même chez nous, dans notre culture, est-ce que c'est de par notre apprentissage judéo-chrétien, peut-être cette notion-là de vie après la mort, tu sais, quand il y a quelque chose, il y a un paradis, puis il y a un enfer, donc ça vient un peu justement étayer là, ces affaires-là de fantômes dans une certaine mesure.
Ben à quelque part, oui, hein, c'est après une vie après la mort, un peu comme tu veux dire.
Quelque chose de métaphysique, ouais. C'est ça, là.
C'est ça, puis là, à savoir s'ils pourraient communiquer, ben c'est là que moi, je suis pas certain. En 2021, il y a un docteur Irving Finkel, du musée britannique, qui a déchiffré une tablette d'argile qui datait d'il y a 35 siècles, OK? Puis, elle avait été acquise, par contre, au musée seulement au 19e siècle. Puis, au recto, on voit une femme qui est tirée par un jeune homme qui serait son jeune amant, qui est chargé de la guider vers l'au-delà. Puis, au verso, il y a des petits rituels et des incantations qui sont censés permettre de libérer son fantôme. ça date pas d'hier, hein, qu'on croit aux fantômes. Puis pour le docteur Finkel, les Babyloniens pensaient que les défunts risquaient de revenir hantés les vivants. La raison, c'est s'ils n'étaient pas inhumés en suivant les bons rituels. Puis là, c'est là qu'ils viendraient nous hanter. Fallait vraiment, là, après la mort d'une personne, faire l'inhumation de la bonne façon, parce que sinon, c'est là que les fantômes revenaient hanter. Ça a été une croyance très populaire il y a longtemps. Puis, on trouve la trace du mythe des fantômes dès l'Antiquité dans la mythologie grecque aussi. Il y a des fantômes qui ont été signalés en tout temps, en tout lieu, et pas seulement chez les Grecs, chez les Romains de l'Antiquité, mais aussi dans toute l'Europe médiévale au complet et jusqu'à nos jours, on déclare avoir vu des fantômes. Vers la fin du 19e siècle, là, s'est développé, par exemple, la prestidigitation, le music hall. Puis là, beaucoup d'illusionnistes qui sont mis à profiter un petit peu des croyances du monde là, pour devenir célèbres. Là, ça, il y en a eu beaucoup, beaucoup. Puis la majorité des ouvrages qui portent sur des cas d'apparition, très rarement, c'est des formes floues ou des affaires, comme on dit, de définition du fantôme. Les gens arrivent avec des descriptions précises, détaillées, quand ils ont vu des fantômes. Si on regarde la majorité des témoignages, c'est vraiment pas des fantômes flous qu'on a vus. Bon, même si la définition que je te donnais au début, c'est un fantôme, est un peu flou.
Ouais, elle est habillée avec une robe blanche, je l'ai vu, c'était une très jeune femme.
Les dames blanches, je vais t'en parler. Il y a toutes sortes de dames blanches, ça, mais je vais y revenir dans juste une minute. Mais le cliché du fantôme qui est vu exclusivement pendant la nuit, là, ça, c'est un mythe. Depuis 1880, on a regardé les nombreuses apparitions ou les
gens qui ont raté.
Ouais, c'est vraiment à n'importe quel moment de la journée. Ça n'a vraiment pas de tendance à être la nuit. Même chose pour les cimetières, les châteaux, là, maisons hantées. Les fantômes qui hantent les vieilles demeures, c'est aussi un mythe parce que les phénomènes qu'on a répertoriés se passent n'importe où. Mais le mythe est véhiculé par beaucoup d'émissions hein, de type chasseurs de fantômes et tout ça. Ouais. Et je sais pas si tu as vu sur YouTube, on a beaucoup de chasseurs de fantômes maintenant, puis il y a des émissions, c'est des jeunes comme ça, ils partent. Puis j'ai des amis qui écoutent ça, moi, religieusement. Puis moi, je l'écoute pas, ça m'intéresse plus ou moins. Je sais pas pourquoi j'ai cette tendance à pas y croire. Mais eux autres, ils s'en vont, puis ils vont dans toutes les places qui sont supposées les tenter. Puis c'est populaire, ça, sur YouTube, là. Des gens qui font leur vie avec ça, à chasser les fantômes, aller dans les places hantées, puis essayer de trouver des manifestations.
Ben, moi, je pense que du moment où on adhère à des choses un peu plus scientifiques, un peu plus terre-à-terre, rationnelles, notre esprit cherche toujours à expliquer ce genre d'affaires-là, puis peut-être qu'on a un peu plus de difficultés. C'est pour ça, tantôt, je disais, ben, je sais pas, tu sais, je suis un gars très rationnel, très réfléchi, très analytique. Moi, il se passe quelque chose, tu sais, j'essaie toujours de trouver pour quelle raison est-ce que ça se produit. Donc, pour que je croie au fantôme, faudrait vraiment, mais vraiment qu'on me fasse la démonstration que je le vois. Disons que je suis un peu Thomas là-dessus. Mais on va dire que ça n'existe pas, mais jusque-là, je sais pas.
Ben, c'est ça, c'est identique, là, ma façon de voir. Moi, si ça m'était prouvé, c'est parce que j'ai pas de preuve que ça existe pas, mais j'ai pas de preuve que ça existe.
Exact.
Mais tu sais, la parapsychologie, c'est l'étude des phénomènes paranormaux, puis on fait beaucoup d'enquêtes, et dans beaucoup de cas, les témoins, là, ils disent souvent qu'ils n'ont pas eu peur par l'apparition elle-même d'un fantôme quand ils l'ont vu, mais ils s'inquiètent du sens que ça pourrait avoir, comme est-ce que ça veut dire qu'un proche pourrait mourir, est-ce que c'est l'annonce d'un décès. Mais c'est ça le rôle, je te disais que j'allais te parler des dames blanches. Il y a différentes sortes de dames blanches, il y en a qui sont certainement des fantômes, là, ça rentre dans cette catégorie-là, c'est sûr, comme les dames blanches annonciatrices d'événements généralement funestes ou plus rarement heureux, mais c'est souvent une dame blanche qui apparaissait puis ça annonçait un événement dangereux ou funeste. Les lavandières de la nuit, c'est une sorte de dame blanche, c'est souvent apparu à des gens considérés comme des revenantes qui étaient condamnés à expier leurs fautes passées, puis c'est des madames qui lavent le linge. Une dame blanche, puis ça, il y en a beaucoup qui en ont vu quand on répertorie les fantômes, puis il y a les autostoppeuses fantômes, t'as peut-être entendu parler
ben
de ça.
Ben oui.
C'est une sorte de dame blanche.
Ouais.
Les spectres de jeunes femmes qui seraient souvent décédées d'un accident de la route qu'on dit. Là. C'est de là que ça viendrait. Mais bon, dans des circonstances comme l'accident, l'agonie d'une personne, ça arriverait que son fantôme apparaisse instantanément à ses proches, par exemple. Ça a été beaucoup répertorié. Les chercheurs posaient comme hypothèse peut-être un message télépathique. Tu sais, comme la victime, quelqu'un qui meurt, qui émet involontairement un message télépathique, mais qui est reçu par le destinataire sous forme d'une espèce d'hallucination. Bon, ça pourrait comme expliquer, parce que la télépathie, j'y crois un peu, là, plus que fantôme, je te dirais. J'ai vu des manifestations. J'ai un petit peu plus de preuves que la télépathie existe que les fantômes.
Ça, effectivement, c'est une thèse ou c'est quelque chose à laquelle j'adhère davantage que les fantômes à proprement parler. Cette idée-là qu'il pourrait y avoir une espèce de manifestation, on va dire télépathique, très, très rapide entre une personne défunte ou qui est en train de mourir et un proche qui est là, vivant. Ça, hein, peut-être.
Ouais.
Okay, ouais, je comprends.
Oui, puis je vois souvent des mamans qui savent quand leur enfant va les appeler. Ils disent, juste avant que le téléphone sonne, il y a des petit message, on dirait télépathique, qui passe, puis on dirait que c'est surtout relié à l'amour très fort, inconditionnel, comme d'une mère envers ses enfants, en tout cas, où ça pourrait avoir plus de chances de fonctionner, la télépathie. Mais quoi qu'il en soit, presque la totalité des apparitions de fantômes, c'est souvent juste des récits, des témoins, c'est repris d'ouvrage en ouvrage, mais c'est très peu souvent vérifié. Hein? Donc, les preuves se font rares. Donc, c'est problématique à ce moment-là. Il y a certaines histoires qui relèvent clairement du folklore et de la légende, si on le sait bien, sans que l'origine du mythe puisse être connue. Puis pour d'autres, la qualité des témoins suggère que leur récit est recevable, mais il y a toujours la possibilité d'illusion, hallucination qu'il faut tenir compte. Il y a des dérèglements psychologiques, des fois psychiatriques aussi, là, et des canulars. Faut pas oublier qu'il y a tellement de canulars. Puis les fameuses photos de fantômes, je veux juste en parler parce que dans l'entrevue que vous aviez fait avec M. Charrette, il parlait des orbes, hein, les petites images parasites qui peuvent être provoquées comme par la réflexion de la lumière, du flash ou des présents dans l'air à côté de l'objectif. Alors lui, il disait que les photos de fantômes, là, ça, lui, ça vaut pas cher. C'est pas à cause d'une photo qui va partir une enquête, mettons.
Ben, il y a tellement de choses qui peuvent expliquer la présence, justement, de ce qui, a priori, nous apparaît être un fantôme. Tu peux pas partir nécessairement sur une enquête sur le seul prétexte que tu vois des points dans une image, là, tu sais.
Non, puis là, avec les photographies numériques, les logiciels de retouche l'image, les trucages, on en a de toutes les sortes. Alors, produire des fausses images de fantômes, c'est assez facile, mais maintenant. Puis actuellement, la communauté scientifique considère en général que la plupart des manifestations de fantômes, c'est faux, parce qu'on n'a pas de preuves indiscutables. Puis les recherches au sujet de fantômes des maisons hantées, c'est quand même d'actualité. Actuellement, les approches académiques même sur les fantômes, il y en a beaucoup au niveau des disciplines comme physique, psychologie, neurosciences, sociologie. Il y a beaucoup d'études disponibles aussi sur Google Scholar Academia, Frontiers in Psychology, l'Association des parapsychologies. Et pour terminer, selon Renaud Évrard, qui est un parapsychologue, il dit les seules choses dont on est sûr, c'est que 1, il y a des gens qui croient aux fantômes.
Oui.
Et 2, il y a des gens qui disent faire l'expérience de paranormal. Alors, les statistiques dans les pays industrialisés, depuis les années 70, c'est plus que 50 à 70 % de gens qui croient aux fantômes, entre 30 % et 50 qui disent avoir vécu au moins une expérience paranormale dans leur vie. Alors, c'est des chiffres énormes. Puis des nouvelles statistiques, regarde juste aux États-Unis, là, 75,9% des Américains croient aux fantômes et aux phénomènes paranormaux, alors c'est pas prêt de disparaître.
Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, mesdames, messieurs, croyez une chose, c'est que l'émission peut contenir des infos. Elle arrive à la fin.
Ah oui, c'est ça.
C'est ça. Tu sais, on vous compte pas d'histoire de fantômes. C'est la fin de l'émission. Ça a encore été une fois très, très remplie. J'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Et j'espère aussi, Sébastien, tu vas être là la semaine prochaine, évidemment.
C'est sûr, avec autant de sujets qui vont être aussi fascinants les uns que les autres, j'espère.
Et j'espère, mesdames, messieurs, que vous allez nous retrouver sur votre station de radio préférée et que vous allez peut-être nous réécouter la semaine d'après sur radio-rfa.com et nosradios.ca. Salut, merci d'avoir été là. Salut, Sébastien.
C'est un grand plaisir. Salut.